Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 9 novembre et aujourd'hui, comme chaque vendredi dans le journal des auditeurs, c'est bien sûr la libre antenne. C'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Quelques suggestions, le PSG accusé de fichage ethnique, la réunion des opposants congolais, l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron qui tourne au chemin de croix ou encore les mystères autour de l'état de santé du président gabonais Ali Bongo. Les sujets ne manquent pas. Venez aussi à nous parler de sujets que nous n'avons pas évoqués à l'antenne. Pour intervenir, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00. Allez-y, toutes les lignes sont ouvertes. 01 55 07 58 00. Avant cela, comme de tradition, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour ami de Julia. Je me pose la question en ce qui concerne le président camerounais à pouvoir appliquer ce mot. Voilà, aujourd'hui, il est en train de faire chasse aux sorciers. Mais je me pose la question, est-ce que le monde entier est en train de voir ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Voilà encore une jeune journaliste, Nafo Mimi, interpellée à propos de ce sionistes, ce qui s'est passé entre des coups de fil, des coups de feu entre les sionistes et l'armée camerounaise. On ne sait pas qui a tué le pasteur américain. Voilà encore aujourd'hui M. Kamto, le président, qui a été vraiment élu. Tout le monde l'a vu. Et en secret chez lui, il n'a même pas le droit de sortir. Sans compter encore d'autres journalistes encore à Bafou, sans qu'on a interpellé, envoyé en prison immédiatement. Mais je me demande, lorsqu'on dit ceci, que c'est Paul Biya qui a amené la démocratie, je me pose, c'est quelle démocratie? Est-ce qu'en 2018, on doit encore interpeller les journalistes? Il faut qu'on arrête. J'ai la honte d'être camerounais. Je vous dis sincèrement la vérité. J'ai la honte d'être camerounais.
Bonjour Madame Hartmann. Bonjour les amis de Judéa. Bonjour les peuples africains, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Peuple congolais, le temps est là. Ne regardons pas, mais regardons d'autres pays qui ont organisé les élections. Alpha Condé, à Guinée, il a gagné l'élection, il a gagné. Au Mali, le président, comme il est au pouvoir, il a gagné les élections, il a gagné. Au Zimbabwe, c'est pareil, le président Nangawa, il a gagné les élections contre l'opposant. Le président kenyan, il a gagné les élections parce que c'est lui qui était au pouvoir. Le président, encore Omar Bongo, il a gagné les élections parce qu'il était au pouvoir. Le président togolais, il y a plein d'exemples, le peuple congolais. Ne restez pas des rêveurs, ne vivons pas dans l'utopie. C'est M. Kabila, l'occupant, qui organise les élections. Soyons sûrs et certains, c'est lui qui va gagner parce qu'à ce moment que nous disons, il est en train d'utiliser les moyens ou bien les moyens des contribuables congolais pour faire la propagande de son dauphin.
Bonjour aux auditeurs d'Africa numéro 1. Je voulais juste intervenir aujourd'hui pour lancer ce message à nos amis du Togo, de l'opposition, pour leur dire que je pense qu'ils filent du mauvais coton. Si c'est M. Alpha Condé qui fait pire que Faure en Guinée, qui va les aider, je pense que c'est déjà un échec. En Guinée, il y a eu 100 morts pour des manifestations pacifiques, alors que les manifestations en Guinée, constitutionnellement, ne sont pas sujettes à autorisation. Il faut juste faire une déclaration. Mais malgré ça, M. Alpha Condé fait sortir ses FDS. Il tire sur des citoyens, même certains qui ne manifestent même pas devant leur maison. Et donc, ils en sont à 100 jeunes, surtout des jeunes tués. Donc, si c'est M. Alpha Condé qui va régler le problème du Togo, alors qu'il veut rester pour un troisième mandat en violant la Constitution, donc c'est pour dire au Togo, je pense que c'est déjà un échec pour vous. Voilà, merci.
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices et Madame Stéphanie. Il y a presque plus de 20 ans et quelques, j'avais lu quelque part dans une revue dont je ne me souviens pas, il paraît qu'il y avait pour la première fois aux États-Unis un gouverneur noir dans un petit État que je ne me souviens pas du nom, mais je crois que ça devait être dans Virginie du Nord, Virginie du Sud, ou Caroline, ou Vernon, quoi. Je ne me souviens pas le nom du gouverneur, et surtout de l'État, au risque de me tromper, quoi. Si quelqu'un peut éclairer ma pensée, je vous remercie.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Alors, si quelqu'un peut éclairer la pensée d'Ousmane, la lanterne même d'Ousmane, qu'il n'hésite pas, qu'il appelle au 01 55 07 58 00. J'ai regardé un peu, le premier gouverneur noir afro-américain aux États-Unis s'appelle David Paterson et il était le gouverneur de l'État de New York. Voilà. J'espère avoir apporté une réponse à Ousmane qu'on salue. C'est la libre antenne aujourd'hui dans le JDA. Comme chaque vendredi, vous pouvez désormais intervenir en direct en nous appelant au 01 55 07 58 00. Dans un instant, on reviendra sur les anciens combattants africains et sur l'état de santé d'Ali Bongo avec Jean. Mais avant cela, on écoute Sissa Vané qui voulait intervenir hier sur le consommer local. Monsieur Sissa Vané, bonjour.
Oui, bonjour Madame Hartmann.
Bienvenue dans le journal des auditeurs, Monsieur Sissa Vané. Vous vouliez dire que l'Afrique n'a pas les moyens de consommer, de produire déjà et de consommer local, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, parce que vous savez que la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux pays produisent la moitié de la consommation mondiale. Et s'ils produisent chez eux là-bas, s'ils le fabriquent, que les associations ne payent pas, mais s'ils fabriquent, qui va payer le chocolat en Côte d'Ivoire? Personne. Donc voilà, c'est un peu le problème. Donc si les bailleurs de fer refusent de payer, ils ne peuvent pas produire là-bas. Parce que eux-mêmes, quand ils viennent, c'est eux-mêmes qui disent le prix, qui disent qu'ils peuvent payer à temps. Mais ce n'est pas normal. C'est nous-mêmes on produit, c'est nous-mêmes on doit dire, voilà, on vend à tel prix.
Mais il me semble que c'est l'État ivoirien qui fixe quand même le prix du café cacao, si ça va né, non?
Non, Madame Hartmann, on nous impose les prix. Parce que si,
et les prix du marché, j'imagine, oui, c'est ça.
Oui, le prix du marché, voilà, on nous impose, sinon... Malheureusement, si on refuse de les vendre, on ne peut rien faire avec. En Côte d'Ivoire, personne ne mange le chocolat. Voilà, donc...
C'est ce qu'on disait hier aussi. Allez-y, pardon.
Oui, ils viennent payer au prix qu'ils veulent. Sinon, si le Ghana et la Côte d'Ivoire s'assoient, puis ils disent, bon, voilà, cette année, voici le prix du café, le cacao, on va s'en sortir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas consommer chez nous parce qu'on n'a pas les moyens de manger le chocolat. Oui, c'est un peu ça, c'est dans ce sens-là qu'il voulait intervenir. Vraiment, c'est dommage, mais on subit toujours.
Et oui, ce que j'entends aussi dans votre propos, si ça va né, c'est que l'organisation aussi économique du monde, avec voilà, ce libre-échange hein, qui est convoqué partout, pénalise aussi les économies africaines et les entrepreneurs africains qui veulent fabriquer des usines, industrialiser le continent.
Oui, c'est ça, mais malheureusement, vous savez... Un exemple, en France, ici, la France fabrique le Peugeot, la France fabrique le Renault, le Citroën, et c'est la France qui fixe son prix. On ne vient pas fixer le prix à la France pour dire on va payer à temps.
Mais là, je pense que c'est Citroën nous, qui fixe le prix, hein, vous savez.
Voilà, c'est Citroën qui fixe le prix, mais chez nous, on vient, on s'en nous dit on paye à temps. Et quand tu ne vends pas, bon, tu seras obligé de garder ton produit. Bon.
Le libre-échange est-il un frein à l'industrialisation du continent?
Voilà, c'est ça. Donc, en principe, c'est l'échange. Tout le monde a gagné, mais apparemment, les paysans ne gagnent pas. C'est l'État qui on leur pose des prix, puis ils vendent, puis ils payent, ils prennent. Mais ceux même qui font les champs, les cultivateurs, et ils n'ont pas, ils peuvent rien faire. Ils ont bien subi comme ça. Sauf si l'État même fixait le prix convenablement, mais tout le monde allait bénéficier. On allait produire du chocolat en Côte d'Ivoire, on allait manger, mais voilà, on ne peut pas acheter le quoi. Donc, consommer le local, c'est très difficile. On n'a pas les moyens de consommer, ce n'est pas possible. On
a vu de et pourtant, il y a un Ivoirien qui fait du chocolat, hein. Son nom va m'échapper, je sais qu'il s'appelle Alex et qui vend hein, des tablettes de chocolat à Abidjan et ici dans les quartiers, dans les épiceries chics de Paris.
Oui, il est fait. Malheureusement, on n'a pas les moyens de manger le chocolat, c'est le problème. On veut bien manger, mais les moyens, le moyen, le fond de faux, sinon c'est... C'est bien de manger le chocolat, c'est la croissance. Les enfants, quand tu vois les chocolats ou autres, ça fait gagner les enfants. Mais les moyens, surtout en Afrique, vous savez, vous partez à Abidjan, vous voyez comment les gens souffrent en Afrique, donc c'est pas tout facile. C'est un peu ça le problème. On veut bien consommer le truc comme en Akkad. On vend les Akkad ici, au champ ici, 6 euros, 7 euros. Ça fait combien? Ça fait 2500 CFA, mais chez nous, on ne peut pas le manger puisqu'on n'a pas les moyens. Oui, c'est un peu ça, Madame Hartmann. C'est difficile, mais on peut consommer pour nous, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens. C'est dommage.
Merci, ouais, Ainsi Savané, de nous avoir fait part de votre analyse sur cette question du consommer local.
Merci, madame. Mayoudou, merci. Bon week-end à vous.
Bon week-end à vous aussi, Ainsi Savané. Bonne journée. Surtout, Ainsi Savané, qui soulignait les difficultés pour le marché, pour les Africains, de faire émerger un marché local. Merci beaucoup, Ainsi Savané. On va écouter Jean tout de suite. Jean, bonjour.
Bonjour, la sœur Atman, bonjour.
Bonjour, Jean. Vous vouliez revenir sur deux sujets, les anciens combattants africains, et non pas tirailleurs sénégalais, puisque c'est vous qui faisiez l'accent, même si Yayassi vous a apporté une réponse.
Oui.
Et sur l'état de santé, surtout, du président Ali Bongo au Gabon.
Oui. Donc, je veux dire si vous voulez des observations, s'il faut les dire, quoi. Bon. Concernant les anciens combattants, la fois dernière, nous avions tous suivi et les explications de votre intervenant, de votre invité, mais moi, personnellement, qui ne m'a pas convaincu. Et qu'est-ce que nous demandons tout simplement? Qu'on efface. C'est-à-dire, qu'on rectifie, si vous voulez bien qu'on rectifie, au lieu des tirailleurs sénégalais, au lieu le mot tirailleur, ça, les historiens, les chefs d'État africains, tout et tout, parce que le respect à nos parents quand même. Pour le respect de nos parents, il faut qu'on mette le nom des anciens combattants. Parce que pourquoi? Ce n'est qu'en Afrique francophone. Mais vous savez très bien que l'Europe, toute l'Europe se battait. C'était la première et deuxième guerre mondiale. Il y a eu aussi les Belges qui sont allés chercher les Rwandais, les Burundais, les ex-Zaïrois. Vous avez aussi les Anglais qui sont allés chercher les Africains dans leurs anciennes colonies, mais on les appelle jamais les tirailleurs. Il n'y a que la France qui a des problèmes avec des États d'Afrique, c'est-à-dire le mot tirailleur. Il faut le gommer, mettre les anciens combattants. Bon, à la place des Sénégalais, il faut carrément enlever ce mot Sénégal, parce que Sénégal, c'était le point de départ. Parce que, souvenez-vous, le capitaine Touré, vous connaissez son histoire, le capitaine Touré, il n'était pas Sénégalais, il était Gabonais. Et être officier, être capitaine, à cette époque-là, c'était un honneur. On avait comploté sur lui, on avait inventé toutes choses, on l'avait fusillé. Maintenant, il faut réhabiliter sa mémoire, c'est un Gabonais. Le capitaine Touré, sa famille, le reste de sa famille est là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner à nos parents? Même s'ils ne sont plus là, ils sont tous morts. Mais au moins, il y a le reste de la famille. Il y a des neveux, il y a des arrière-parents, et ainsi de suite, tout cela. Ne fût-ce que quelque chose, parce qu'ils revenaient branle-ballant. Ils sont allés mourir. Ceux qui ont réussi de survivre, ils sont revenus branle-ballant. Bon, donc ce problème, il faut le régler. Maintenant, concernant... Allô?
Oui, on vous écoute. Une excellente transition de passer de Choréré du Gabon au deuxième sujet dont vous vouliez parler, c'est le mystère sur l'état de santé d'Ali Bongo.
Oui, le mystère de l'état de santé de M. Bongo. Bon, en tant qu'Africain, c'est vrai, moi je suis contre lui, mais dans la situation où il se trouve, nous les Africains, nous respectons toujours la souffrance d'une personne et la mort d'une personne. Mais pour l'unité nationale, du Gabon, pour réconcilier le Gabon. Bon, puisque même si, avec M. Bongo, sans Bongo, c'est toujours la même équipe qui est sur place, qui sont dans la mangeoire de la famille de M. Bongo. Donc, pour réconcilier les Gabonais, franchement, il faut dire tout simplement la vérité, de faire prêter serment à M. Jean-Ping qui avait gagné les élections. Ce n'est pas la peine de compliquer les choses, on va attendre le temps de la transition.
Pourtant, c'est pas ce que prévoit la constitution gabonaise.
Mais puisque sa victoire a été volée, rendez à César ce qui lui appartient. C'est le peuple qui avait décidé d'élire quelqu'un. Bon, maintenant, la sœur Atman, qu'est-ce qui te prouve que quand ils vont réorganiser, avec Bongo sans Bongo, quand ils vont réorganiser les élections, qu'est-ce qui vous fait qu'ils ne vont plus gratter, ils ne vont plus cafouiller de chercher encore un autre, un troisième Bongo à la place? Ils ont tellement fait du mal aux gens, ils ont peur. Mais pour être pardonné, surtout cette femme de qu'on appelle la présidente constitutionnelle de la Constitution, qui est riche, les Africains, bon, donc celle-là, c'est sa conscience. Pour être pardonné, c'est un problème de conscience. Ils sont tellement riches et ils ont...
Vous partez dans l'émotionnel, mon cher Jean, en parlant de pardon, pas sûr que ce soit à ce niveau-là de réflexion qui soit présentement à Libreville. Mais on a bien compris, Jean, je vous remercie, parce que le temps passe vite, on a bien compris que vous étiez favorable à ce que Jean Ping prête serment. Jean Ping a fait un discours, mais n'a pas du tout évoqué cette vacance du pouvoir à Libreville, affaire à suivre, hein, donc du côté du Gabon. Par contre, on sait d'ores et déjà, hein, qu'Ali Bongo ne sera pas à Paris le 11 novembre, c'est l'Élysée qui l'a dit. Yves, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Yves, vous vouliez rebondir sur la prise de parole d'un auditeur concernant le consommé local, c'est Sissa Vanet, hein, qui était un peu défaitiste en disant que...
Tout à fait, mais comme je disais tout à l'heure, c'est une question de volonté politique. Nos États ont tendance à confectionner leur budget sur les recettes d'exportation. Donc comment voulez-vous que on puisse consommer local lorsque on a besoin de ces ressources-là? Tant que les Africains et les États auront pour mission ou la confection de leur budget sur des exportations, on va trouver toujours des Africains qui auront des difficultés à se nourrir et le consommer local ne sera pas la priorité de nos États.
C'est intéressant ce que vous dites, effectivement. On a besoin d'exporter ces matières premières, donc si on a besoin de les exporter, on ne peut pas les transformer sur place.
Tout à fait. Et en même temps, cette transformation, les Occidentaux aussi ont besoin de faire tourner leurs usines. Donc ils ne favoriseront pas, sinon très peu, que cette transformation se fasse en Afrique. Sinon les ouvriers ici, qu'est-ce qu'ils feront? C'est ça la réalité.
Est-ce que vous êtes d'accord quand on suggère que le libre-échange finalement pénalise l'industrialisation de l'Afrique?
Mais
est-ce que
ça
fait des rapports asymétriques, on est bien d'accord?
C'est des rapports asymétriques, parce que c'est des choses qui sont connues il y a une trentaine d'années. Le libre-échange, oui, lorsque vous êtes des pays d'égale puissance. Le libre-échange avec un pays qui est pauvre et un pays qui est riche, ça n'existe pas. Parce que le pays qui est riche peut inonder votre marché, donc baisser les coûts, parce qu'on le voit à Dakar avec Auchan qui écrase les petits commerçants parce qu'ils ont la capacité d'importer à moindre coût, à moindre frais et vendre à bas prix. Donc le libre-échange, ce n'est possible qu'avec des pays qui sont d'égale puissance. Vous me vendrez tel nombre de produits, mais je ne laisserai pas inonder mon marché. Donc, c'est pas à l'ordre du jour pour les Africains aujourd'hui.
C'est très clair. Merci Yves de cette contribution. Je vous souhaite une excellente journée, Yves.
Merci beaucoup et à très bientôt.
À très bientôt hein, sur les antennes d'Africa numéro 1. On continue cette libre antenne. Alors, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire avec Monsieur Konaté Nemori. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie Hartmann et bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Et surtout que Dieu bénisse l'Africa numéro 1.
C'est gentil, merci beaucoup Konaté, que Dieu vous bénisse également. Vous vouliez faire un point sur les actions positives d'Alassane Ouattara?
Oui, effectivement.
Quelles sont-elles?
Et tu sais, un président ne peut pas être venu au pouvoir et puis faire plaisir à tout le peuple. Mais souvent, il pose des actions, même quand il a élu, en fait, il pose des actions qui peut te plaire et ne pas te plaire. Voilà, même pareil, nous qui sommes en France, on le voit, Macron, ils l'ont voté. Il y a des Blancs qui ont été déçus de Macron. Voilà, mais les actions positives de l'Assemblée Ouattara, que moi, je veux que les gens y reconnaissent, au fait. En Côte d'Ivoire, il y avait des moments en Côte d'Ivoire, que ce soit le Malien, le Guinéen, le Tchadien, c'est-à-dire tout ce qui est étranger, au fait, avait des problèmes en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est des gens, au fait, ils marchent librement, ils font leur commerce librement, que les gens, au moins, reconnaissent ça, quoi.
Il y a moins de xénophobie, vous dites.
Voilà, au fait. Moi, par exemple, Stéphanie, sans s'entendre à l'étranger, j'ai été victime de ça et il y a au moins 6 ans, 7 ans de cela. J'avais mon passeport, enfin, je lui ai refait, en fait. Je suis allé à la police, que ce soit à l'administration, pour refaire mon passeport. Je lui ai dit que je ne suis pas ivoirien. De déplacer mon oncle, de l'envoyer jusqu'au à la sûreté, en fait. Et je l'ai fait. On m'a mis dans l'audition. Donc, tout cela, là, toutes ces xénophobies, là, c'est banni aujourd'hui. Et tu vois. Donc, cela a dit qu'un président ne peut pas satisfaire tout un peuple. C'est impossible. Même dans la famille, ça existe. Tu ne peux pas satisfaire ton père et puis satisfaire tout le monde.
Mais tout le monde ne peut pas être content d'un président,
oui,
mon cher Konaté.
Exact. Mais le minimum aujourd'hui, moi mon enfance, quand je vois ça aujourd'hui, je me souviens de mon enfance. Parce qu'il a pris des actions qu'on le voyait autant de Félix Houphouët-Boigny. J'étais petit, j'étais gamin. Hein. Voilà, qu'au moins les gens aient eu le courage de reconnaître ça, quoi.
C'est très clair. Voilà. Merci Konaté de votre intervention. Hein. Konaté qui voulait souligner le vivre ensemble qui s'était amélioré en Côte d'Ivoire hein, depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara. Bonne journée Konaté. Un petit tour du côté du Standard. On va retrouver Béatrice qui nous appelle, je crois, pour la première fois. Bonjour Béatrice.
Oui, bonjour Stéphanie Hartmann.
Bienvenue dans
le JDA. Bonjour à tous les auditeurs.
Bienvenue Béatrice dans le JDA. Vous vouliez revenir sur le Cameroun, la situation politique au Cameroun. On a entendu un message tout à l'heure. Hein, il y a beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés, notamment la journaliste phare d'Equinox TV, Mimi Mefo.
Oui, oui.
Voilà. Ça oui, vous inquiète?
Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est inquiétant l'arrestation d'une journaliste qui n'a rien fait et qui, d'après ce qu'on a dit, c'est ce qui a été marqué sur son mur. On prend ce qui est marqué sur son mur pour l'accuser. Et pourtant, les journalistes l'ont dit, ce qui a été marqué sur son mur, elle a donné la référence où elle a eu l'information. Donc, il y a une origine première. Ce n'est pas elle qui a déclaré ce qui est marqué sur son mur. Donc, de quel droit on l'arrête et qu'on l'inculpe? Et de surcroît, un tribunal militaire, même pas civil.
Effectivement, hein. Donc, on rappelle que seuls les soldats sont censés être jugés par un tribunal militaire.
Tout à fait. Et elle n'est pas militaire, elle est civile, elle n'a jamais travaillé pour un organisme militaire. De quel droit il l'arrête et l'inculpe et la font comparaître dans un tribunal militaire? C'est pas normal.
De nombreuses personnes ont demandé sa libération, hein, dont Reporters sans frontières et plusieurs personnalités politiques également hein, de l'opposition, le Manidem et Joshua aussi. Béatrice, y a-t-il au lendemain de cette élection controversée, il faut le reconnaître, y a-t-il un durcissement de la part des autorités au Cameroun?
C'est à croire que oui. C'est à croire que oui. Parce que, par exemple, Maurice Kamtoué est en résidence surveillée. La population au Cameroun, ils ne peuvent pas s'exprimer librement. On parle de liberté d'expression, de démocratie. Il y a zéro liberté d'expression et de démocratie au Cameroun. Sinon, on aurait laissé que le peuple exprime ce qu'il ressente. On ne laisse personne ne s'exprimer. Et pour peu qu'on marche, on arrête les gens. On a vu, par exemple, à l'ouest du Cameroun, à Bafoussam, les gens qui marchaient les mains nues avec l'arbre de paix en main être arrêtés et bastonnés. Pourquoi? Et on parle de démocratie, c'est pas une démocratie. Monsieur Paul Biya parle de travailler avec les jeunes. Si on arrête tous les jeunes pour les foutre en prison, avec qui est-ce qu'il va travailler? Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. C'est pas possible qu'un gouvernement soit là depuis 36 ans et il a prêté serment en parlant des jeunes. Jusqu'à présent, on continue à arrêter les jeunes, que l'armée, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de la population, sans que personne n'ait le courage de se lever et de dire « halte, ça va pas, il faut qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire là ». C'est pas possible.
Situation inquiétante au Cameroun. Merci Béatrice de votre contribution hein, à ce journal des auditeurs. Je vous souhaite une bonne journée, Béatrice.
Merci, madame.
Rappelez
merci
quand vous voulez. On a besoin d'entendre des voix différentes et des voix féminines aussi sur cette antenne. J'ai rien contre vous, messieurs. Hein. Je demande d'ailleurs Philippe et Séverin de patienter un petit peu. On va écouter Djibril avant cela. Djibril, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour les auditeurs du journal des auditeurs.
Bonjour Djibril. Ah. Vous voulez parler du déplacement d'Ibeka à Paris, à Reims,
on va dire,
dans l'est de la France, alors que le DDR était lancé chez lui?
Ah bah, il y a beaucoup de choses qui sont lancées. Donc, je pense que Ibeka se fout complètement du peuple malien. Le se pavaner à aller faire des inaugurations ou des choses et aller se loger dans des hôtels de super luxe, je pense qu'il a beaucoup mieux à faire au Mali. Déjà, son élection est contestée, c'est un président de facto. Mais n'empêche, là, il y a suffisamment de problèmes au Mali et je pense que Ibeka n'a vraiment pas à se déplacer, qu'il n'a vraiment pas beaucoup mieux à faire au Mali que d'aller se pavaner en France ou aux États-Unis. Aujourd'hui, les Maliens sont en colère parce que quand on voit la situation sociopolitique au Mali, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc, voir un président qui vient pour vraiment redorer son blason avec Emmanuel Macron, je pense pas que c'est ce qui est la solution, quoi. On a beaucoup mieux à faire au Mali. Il a beaucoup mieux à faire au Mali. Et moi, j'ai un coup de colère et un coup de gueule par rapport à ce déplacement-là. Et qui coûte des millions et des millions d'euros. Je dis même pas des francs CFA et des millions d'euros avec une équipe faramineuse. Donc, franchement, je suis vraiment en colère par rapport au voyage de Ibeka. Un premier mandat catastrophique. Un deuxième mandat qui commence très mal et qui est même contesté et malheureusement, les faits sont là. Aujourd'hui, je constate qu'il y a, vraiment une équipe de police qui garde, qui sécurise le consulat. Mmh. Pourquoi faire? Mmh. Donc, c'est vraiment en colère par rapport au gouvernement de facto. Et je me permets d'appeler pour vraiment dire que trop, c'est trop.
On entend bien votre colère, Djibril. C'est intéressant cette information que vous donnez, hein, le déploiement policier devant le consulat du Mali. C'est une façon peut-être aussi de se couper de la diaspora. On a vu ça devant d'autres ambassades, d'autres consulats, plutôt d'Afrique centrale d'ailleurs, où les gens venaient manifester après des élections frauduleuses.
Je pense que quand on est légitimement élu, il n'y a pas de raison de se couper du monde. Si c'est le président des Maliens, il n'y a pas de raison de faire appel à la police pour se séparer. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Mmh. Et ce problème-là, ce n'est pas son souci. Et pourtant, c'est ce problème-là qui doit être son premier souci, puisque c'est le président de facto des Maliens, je dirais encore de facto, puisque c'est très bien qu'il n'est pas élu et que ça ne va pas s'arrêter. Mmh. Le coup de poing qu'il a reçu lors de son dernier passage à Paris, on ne va pas lâcher. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il va faire, mais les Maliens seront toujours là devant lui, parce qu'ils n'ont pas accepté que leur vote soit volé, que leur voix soit volée. C'est-à-dire que les gens ont voté pour une autre personne. Mais Ibeka en a détourné, il a abusé des moyens de l'État, il a abusé du pouvoir, et là, trop c'est trop.
Faire à suivre, Djibril. On comprend bien votre colère. Il nous reste 3 minutes, puisque vous parlez d'Ibeka, trop c'est trop. On va aller écouter Philippe, qui lui veut parler de l'état de santé des présidents africains. On sait hein, que Ibrahim Boubacar Keïta a eu quelques soucis de santé également. Philippe, bonjour. Merci Djibril, hein, au fait. Bon week-end à vous, bonne journée surtout. Philippe, bonjour. Philippe est en train de s'énerver après quelqu'un. Il a laissé le téléphone.
Bonjour, maman Stéphanie.
Bonjour, papa bonjour, Philippe.
Ah, ça arrive, hein. Ok, c'est une coïncidence.
Qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous.
Moi, je voulais parler des Africains. On parle de Africa, Afrique va avancer. Comment Afrique peut avancer dans cette situation où un président élu, on ne connaît pas sa santé, on essaie. S'il est malade, il a honte de dire à son peuple qu'il a élu qu'il est malade. Et quand on voit aujourd'hui la plupart des présidents africains, ils sont presque tous malades. Et comment un pays où le chef d'État, la tête du pays est malade, comment le pays peut avancer? Les investisseurs ils vont discuter avec qui? Aujourd'hui, il faut voir déjà.
Bah, en même temps, un État, Philippe, c'est le président ne représente pas forcément un État. Un État doit vivre sans son président. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a des institutions fortes, a priori, la santé ne joue pas sur l'économie.
Mais pendant qu'on s'accroche au pouvoir, on s'accroche au pouvoir pendant des siècles, pendant des années, et on ne veut pas laisser. On a honte. Mm. On a honte de dire que oui, je suis malade parce qu'il y a des gens qui seront contents parce qu'on est malade pour que eux ils partent. Donc, il ne veut pas partir, il veut toujours s'accrocher du pouvoir. Et ce n'est plus une démocratie. On n'a pas de démocratie en Afrique. Il n'y a pas de démocratie. Regarde ce qui se passe au Cameroun. Regarde ce qui se passe au Nigeria. Bouhari est malade, il ne peut pas lâcher. Il veut toujours rester là. Et pourtant, il y a une constitution qui est là, qui dit que quand le président n'est pas là, il y a le président du Sénat qui prend sa place. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui au Gabon? On attend quoi? Ou soit Jean-Pierre, ou bien, je ne sais pas. Donc, on se prépare encore dans les désordres. Le sang des pauvres. Vous voyez?
Affaire à suivre, voilà.
Est-ce
Philippe.
Est-ce que ces gens-là nous écoutent? Est-ce que les politiciens africains nous écoutent? Est-ce qu'ils écoutent?
J'espère qu'ils vous écoutent. Comme ils sont souvent à Paris, Philippe, je n'ai aucun doute qu'ils écoutent régulièrement Africa numéro 1 pour s'imprégner d'une certaine opinion africaine. Merci à tous, chers auditeurs, d'avoir participé à cette libre antenne. N'hésitez pas à continuer le débat sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions par mail jda@africa1.com. Bon week-end, à lundi.